Non.
Mazar.
Prénom.
Jules.
Bonjour, Jules Mazar. Merci d'être parmi nous au CNLR pour parler de ton histoire de Caporni. Mais avant de parler du Caporn, on a vu que tu avais quand même une longue histoire avec la mer. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment ça a commencé, à quel âge, qui t'a amené la première fois en mer?
Ça a commencé très tôt, c'est mes parents qui m'ont amené en mer ou sur l'eau, parce que je pense que j'ai commencé par naviguer sur des petits plans d'eau intérieurs. Oui, je pense que dès l'âge de 3 ans, on a vu que sur un bateau, voilà, pour les vacances.
Donc c'était pendant les vacances, mais donc tu nous dis avoir commencé très très jeune, est-ce qu'ensuite tu as eu des lectures, vu des films peut-être, ou rencontré des marins qui t'ont fait rêver?
Bah oui, évidemment. Moi, j'ai oui, donc j'ai commencé très jeune, mais c'était vraiment du loisir. Hein. Je faisais pas de compétition, c'était de la balade ou de la petite régate de quartier. Bah moi, je suis né en 66. Donc oui, dès que j'étais jeune ado, c'était un peu la grande époque, la grande époque des transats, de la première Whitbread, la première course autour du monde en équipage. Des choses comme ça qui me faisaient vraiment rêver. Donc oui, bah, c'était Tabarly qui était en pleine gloire. C'était effectivement après tous ces un peu ses disciples, ou pas d'ailleurs. Hein, mais bon, voilà, les Poupons, les Malinos, tous ces gars-là. Oui, ça me faisait rêver, oui, ouais, clairement. Et aussi les lectures d'aventuriers, entre guillemets, moi Tessier en tête, évidemment. Ça aussi, ça me faisait vraiment rêver.
Et donc, mais sur quel bateau tu as commencé alors, jeune, avec tes parents?
Bon, bah, j'ai dû commencer mes premiers bords sur un corsaire. J'en suis pas sûr, faudrait leur demander. Voilà, et puis après, bah, j'ai fait l'optimiste, du dériveur, du 420, et puis des croisières, voilà, des croisières sur des bateaux de 9-10 mètres. Voilà, c'était ça les débuts, ouais.
D'accord. Et à un moment donné, tu t'es tourné donc vers la compétition et la course au large. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu as pris cette décision de partir comme ça?
Oui, bah c'est venu dans mes dernières années de lycée, en première ou en terminale. Bon, ça me. C'est pas que les études me rebutaient, mais ça m'épanouissait pas vraiment. Et donc, à un moment, bah oui, je me suis dit, on était peut-être plus insouciant à l'époque, je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'éclater. Et puis, il y avait effectivement ces modèles, enfin, ces exemples de gars qui étaient un peu plus âgés que moi, que je voyais partir naviguer, que je pouvais rencontrer à gauche, à droite. Et puis, bah, je me suis dit, allez. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai vraiment tenté ma chance. Donc là, c'était vraiment partir à l'aventure parce que j'ai vraiment cherché les. Je connaissais personne, hein, j'étais pas du tout issu du sérail. Hein, donc je suis vraiment allé traîner les pontons et chercher les embarquements. Donc ça a plutôt commencé forcément par des embarquements. On va dire amateur entre guillemets et puis voilà je croûtais comme je pouvais en faisant des chantiers en participant à des constructions de bateaux et puis en fait c'est venu très vite c'était quand même une belle époque hein, les années milieu des années 80 bon après ben, moi j'en voulais aussi hein, bon, très vite j'ai réussi à faire ma place dans des équipages.
D'accord. Et donc, tu as participé à pas mal de courses, on l'a vu. Est-ce qu'il y en a une parmi toutes ces courses qui t'a laissé le meilleur souvenir?
Ben, c'est très difficile à répondre hein, parce que moi, enfin comme tous, hein, je pense, ce que j'aime, c'est la mer et c'est la course. Et c'est pas que la course aussi, c'est aussi l'aventure, c'est la balade. J'adore la croisière aussi. Donc voilà, après les courses, ben, forcément, celles qui laissent les meilleurs souvenirs, c'est celles où ça se passe le mieux, on a l'impression de vivre une aventure aussi, où ça se passe bien enfin, où l'ambiance est bonne. Bon, c'est très difficile pour moi de répondre parce que bon, moi, J'ai fait de l'olympisme, j'ai fait de la course au large en équipage, j'ai fait de la régate en très gros bateau. Hein, donc voilà, donc j'ai fait du sailing, j'ai fait de la Volvo, Chainrest, c'était la course dans l'équipage, j'ai fait de la Coupe América, ça c'est pour parler des gros trucs. Et à chaque fois, ça m'a éclaté. Moi j'aime tout ce type de support et aussi la balade, convoyer des bateaux, j'adore ça aussi. Bon, après, on est là pour parler du Cap Horn, la Volvo, ouais, ça m'a marqué quand même. Ça m'a vraiment marqué, ça a quand même été un sacré truc, quoi.
Oui, justement,
Ouais.
tu
Ouais.
viens de faire la transition avec le
Ouais.
Cap Horn, donc tu l'as passé en course. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage du Cap Horn?
Le passage du Cap Horn en lui-même, nous, les conditions étaient relativement clémentes. Quand on est passé de jour, il devait y avoir 20-25 nœuds. Quand on en a pris, on va dire entre 60 et 35 en permanence pendant une bonne quinzaine de jours, ça semble être les vacances. Donc voilà, c'est symbolique, hein, le passage du Cap Horn en lui-même, c'est surtout ce qui s'est passé avant, hein, qui compte. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc ouais, c'était un moment joyeux, forcément, hein, surtout quand c'est la première fois. Mais ouais, moi, ce que j'en retiens, finalement, c'est moi, ça fait un petit moment, ça fait 20 ans maintenant, cette histoire, ou pas loin. C'est plus des moments dans le Pacifique Sud qui m'ont marqué. Hein. Ouais. Ouais,
Ça semble effectivement, alors le Pacifique Sud semble avoir un attrait tout à fait particulier. Et est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement heureux en mer dont tu peux te rappeler?
Le Pacifique Sud, alors c'est très particulier. Enfin bon, en tout cas pour moi, ça a été des moments très très forts. Pas toujours heureux dans le sens où, bon, faut pas oublier qu'on était en course. Donc on poussait le bouchon quand même très très loin, comme toujours, hein, comme maintenant. Enfin bon, voilà. Donc, beaucoup d'engagement, beaucoup de stress, une espèce de piqûre à l'adrénaline incroyable. C'était la dernière course où il n'y a pas eu de porte des glaces autour du monde. C'est-à-dire qu'à la suite du Pacifique Sud, ils ont décidé d'en mettre quand on est revenu dans l'Atlantique Nord, parce que ça avait été vraiment trop dangereux. On a fait facilement une semaine à faire du slalom entre les glaçons. Donc c'était à la fois fabuleux et à la fois terrifiant, quoi. Voilà, c'était il y a les deux à la fois, quoi. C'est pas des moments de pur bonheur. On en sort de là très marqué. On a envie, sur le moment, on dit plus jamais. Et puis voilà, un mois après, on a envie d'y retourner. Enfin, je pense que tout le monde tient à peu près le même discours. Hein. Voilà, c'était un truc assez, ouais, une expérience vraiment. Vraiment majeur, quoi, oui, ça c'est vrai.
Donc, tu as eu l'occasion, à travers aussi bien la course que la croisière, de naviguer sur un grand nombre de bateaux. Est-ce que parmi tous là, il y en a un qui était plus attachant que les autres?
Non, attachant, c'est difficile à dire ça. Oui, effectivement, j'ai navigué sur beaucoup de bateaux différents. Je suis une génération qui est un peu. Bon, ça continue d'évoluer énormément. La nouvelle génération des bateaux qui volent, c'est un truc de dingue que j'aurais vraiment aimé ou que j'aimerais vivre. Hein, donc, il n'y a pas de grande époque, on va dire, mais il y a quand même une grosse évolution. Et voilà, il y a plein de bateaux qui m'ont marqué. À chaque fois que c'est le côté nouveauté, le côté extrême qui est marquant quand même quand on est un peu. Si on parle de ça. Quand on est compétiteur et qu'on aime en même temps la mer et puis qu'on aime la glisse aussi, parce qu'on aime la vitesse aussi, c'est que j'aime toujours. Je pense que tous les marins qui font de la course, ils aiment ça, mais pas que ceux qui font de la course aussi. Donc les premiers bords sur un multi, c'était un truc de dingue. C'était une époque où ils n'allaient pas si vite que ça, mais c'était très impressionnant. C'était des bateaux dangereux. On allait à 25 nœuds, on défonçait la mer, on cassait tout. Alors maintenant, ils vont deux fois plus vite, voire trois fois plus vite. Mais c'est un peu comme on prend une vieille moto, une vieille bagnole, on va faire la caisse dessus, ça déboîte, c'est pareil. Ouais, j'ai fait. Après la Volvo, j'étais avec Marisha 4, on a fait toute la campagne de record. Bon, c'est un bateau, effectivement, fabuleux, exceptionnel, parce que par sa taille, par sa perfection. Enfin, c'était vraiment un truc à la fois gigantesque et novateur, donc c'était un sacré truc. Mais il y en a eu, voilà, il y a eu. Non, j'arrive pas à vous donner un bateau parce qu'à chaque fois que je changeais de support, ça, je trouvais ça vraiment fabuleux, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai eu ce parcours assez sur des supports aussi différents finalement. Voilà. C'est que voilà, l'Olympisme, ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors pourtant, c'est votre qui ressemble à rien, qui avance pas, qui. Mais il y a le bateau, puis il y a le support, il y a ce qu'on en fait avec.
Donc, tu as dû connaître, en naviguant sur tout ce bateau, probablement des soucis techniques, confrontés à des difficultés. Est-ce que tu peux nous dire quelle vertu ou quelle qualité la mer a exigé de toi?
Ah ouais, ça c'est difficile de parler de soi, surtout pour ce genre de choses. Comme tout le monde, hein, enfin comme tout marin, je pense, il faut. S'il y a des soucis techniques, eh ben, il faut garder son sang-froid. Essayer de. Non, par rapport aux soucis techniques, je dirais la plus grande qualité, c'est le sang-froid. Voilà. Parce qu'on se retrouve dans une situation compliquée à gérer. Après, ça dépend. Le souci technique, ça dépend s'il met en péril la sécurité de l'équipage, du bateau, hein, ou sa sécurité. Après, il m'est arrivé de nombreuses fois de démater en régate. Bon, c'est moche. Des fois, c'est dramatique parce que ça remet en question tout un projet, mais en même temps, voilà, on a tout foutu à l'eau, on récupère, on rentre à la maison. Et puis, il va vous arriver un truc beaucoup moins grave, effectivement, au large, en principe, sauf que ça devient beaucoup plus compliqué à solutionner. Je sais pas, puisqu'on est dans le tour du monde, dans les Capes du Cap Horn. Non, c'était même pas un gros souci. Voilà, ça a amené un énorme stress, mais finalement, ça s'est bien réglé. Un jour, on a poussé le bouchon un peu loin, on a tiré sur le bateau toute une après-midi pour essayer de raccrocher au wagon, enfin, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et puis, bah, on a cassé une poulie de Bastac. Si on n'a pas eu de sécurité, en gros, on aurait dématé, quoi. Le bateau, le mât partait direct. Hein. Moi, je m'occupais du gréement, donc j'avais eu un peu. Je sentais pas trop ce truc-là. Elle était grosse, surdimensionnée, mais je trouvais que ça travaillait pas bien. Donc j'avais mis des sécurités un peu de mon propre chef, un peu contre la vie des autres. Mais bon, bref, j'avais dit, on va assurer. Donc finalement, voilà, ça s'est géré très facilement cette histoire. Voilà, on a tout affalé, on a changé la poulie, on est reparti. Ça nous a fait perdre quelques heures, mais on est reparti. Mais après coup, c'était. Ouais, quand on reparle de garder son calme, de garder son sang-froid, sur le moment, ça a fait monter une pression sur ceux qui étaient sur le pont monumentale, quoi. C'est-à-dire que je me souviens du gars qui barrait, moi j'étais à ce moment-là, par la page, j'étais au réglage, et le mec c'était un dur à cuire, hein, il avait beaucoup d'expérience. Hein.
On coupera, il a la possibilité de faire des
ouais. Ouais, je dis c'était un dur à cuire avec beaucoup d'expérience. Sauf que ben, on était tous un peu sous tension depuis 2-3 heures à tirer sur le truc en se disant ça va mal se terminer. Et puis effectivement, ça a failli mal se terminer. Le gars il a pété les plombs, quoi. Un truc. Imaginez un guerrier qui a tout vu, qui a tout fait. Et puis on a poussé un peu trop le curseur et puis ça fait un court jus dans le cerveau, quoi. Donc voilà, donc faut gérer ce genre de situation. C'était pas un, voilà, après il a pas été compliqué à gérer le souci puisqu'il était anticipé et puis puisque voilà, mais ouais, définitivement ouais, c'est du sang-froid.
Mais au-delà juste de l'aspect technique, il y a la confrontation avec les éléments. Et là, ça demande quelle qualité.
Bah, faut être humble, hein, les éléments ils sont toujours plus forts que vous. Donc, faut jamais l'oublier. Et si on l'oublie, en général, on est vite rappelé à l'ordre, quoi. Et donc, forcément, c'est pas la même chose quand on fait de la croisière ou quand on fait de la course. Et la course, bah, y a un côté compétition. Souvent, voilà, dans ce genre de course là, en tout cas, il y a des moments où on se dit là, on commence à avoir dépassé les limites du raisonnable, et puis avec les moyens modernes qu'on avait déjà à l'époque et qu'on a encore beaucoup plus, on connaît le rythme de progression des autres, et puis là, on se dit bon, je continue, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et puis et donc à la fois, on sait qu'il y a une limite par rapport aux éléments, à la mer elle-même, à son matériel, à sa résistance physique, à plein de choses. Et puis en même temps, on sait ce que font les petits copains. On sait que finalement, être derrière, c'est plus dangereux que d'être devant, parce qu'il n'y a plus personne, si vous faites distancer, il n'y a plus de voiture balai pour venir vous secourir. Et c'est ça l'histoire du Cap Horn, en fait, hein, c'est que dès qu'on est dans le Pacifique, il n'y a plus rien, quoi. Donc le prochain point à peu près sûr, c'est le Cap Horn. Donc on a intérêt à y arriver entier. Et quand on est en course, c'est un truc un petit peu dingue, c'est que la sécurité, on est plus en sécurité devant que derrière. Et donc ça vous amène à être prudent et à pousser le curseur très très loin.
Donc on a évoqué toute la partie course ou croisière que tu as pu faire jusqu'à présent. Tu peux nous parler de tes projets?
Oh ben mes projets en termes de navigation, ils sont beaucoup plus modestes. Moi là, maintenant j'ai un métier, je suis toujours marin, hein, je pilote des bateaux à moteur au port de commerce. Donc mes projets à court terme, non, c'est pas des projets, c'est des pratiques. Hein. Voilà, je fais des ronds dans l'eau, je fais du kitesurf, je fais des choses comme ça. Je prends un peu des sensations, voile et glisse en faisant ça. Si à moyen terme, si ça me plairait bien de faire une grande croisière, ouais. De partir en balade. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre d'arrêter de travailler.
Oui, c'est vrai que la retraite est un bon moyen pour pouvoir partir voyager.
Le tout, c'est d'arriver à la prendre assez tôt et assez en forme,
Pour en profiter,
avec
oui.
un peu avec les moyens qu'il faut pour le faire. Mais bon, les moyens, pour moi, c'est un faux sujet, parce qu'on voit bien des gens qui font des belles choses avec pas beaucoup de moyens.
Bien, merci beaucoup d'avoir
Ben, de
accepté cette
rien.
interview. La Rochelle est très fière de ses caporniers, de ses aventuriers qui sont partis.
Ouais.
Voilà, je te remercie de ta présence.
Ben merci.
Très bien.